C'est un monde qui bat en couille.
Cannabis Circus.
Tous les jours, on va être là. Et la drogue, on va l'éradiquer. Vous le vouliez ou pas? Alors vous, les jeunes, vous avez à passer le message. C'est vous. Vous, consommateurs.
C'est shit que ça sent.
Cannabis Circus.
Derrière chaque joint, il y a un lien avec une activité mafieuse ou terroriste. Et il faut que chacun en ait conscience.
Cannabis Circus.
Radio Canu.
Et oui, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et c'est Cannabis Circus, comme tous les lundis soirs. Nous allons vous parler de chanvre. On va vous dire ce qui se passe en France. S'il y a des choses, il y a un groupe d'études sur le cannabis qui va se faire. On va lire un interview de Bex, de France, de FI. Voilà. Après. De FI, de des Insoumis.
La France Insoumise, mais qui ça?
Bex. On va avoir un interview, donc c'est dans le cannabis. Donc ça continue à discuter tout doucement en France. Il y a des députés, pas seulement de FI, un peu de partout. Voilà, ça bouge un peu. Après, on verra aussi dans l'autre chose qui évolue en France, l'appel d'offres pour donner du cannabis médical aux quelques cobayes qui ont été élus dans la grande étude qui a été lancée par Macron. Avec 200 personnes, voilà un truc. Bref, en tout cas, on croyait que les patients allaient tomber en rade de produits. Et ben, ça y est, ouf, un appel d'offres a été fait pour 80% de ce qu'il faut. Voilà, pour le reste, il y a un deuxième appel d'offres en cours. Bref, on va revenir là-dessus. On va venir aussi sur le HHC. Je sais pas ce que c'est encore un truc nouveau. De manière, il y a un truc nouveau ou deux par mois.
Que la France veut interdire et que Yann Bizou nous explique comment c'est compliqué.
Ah, d'interdire les choses. Voilà.
On t'entend plus.
On m'entend plus.
Non.
Ça, on m'entend plus. Pourtant, je suis bien.
Puis là. Voilà, là, on t'entend.
Et là, on entend. D'accord. Donc, ensuite, on fera de la musique parce que on fera beaucoup sur ce passage français. Et puis après, on reviendra sur une grande étude des copains du cirque qui ont écrit ça, je crois.
Non. Non, c'est... Vas-y, excuse-moi, alors.
Vas-y, dis-nous qui c'est.
Alexandre Marchand.
Ah, d'accord, qui nous a fait le...
Qui est un docteur en histoire à l'ENS de Cachan et qui travaille sur l'histoire de la prohibition des drogues. Voilà, c'est lui qui a écrit ce texte.
Il nous a fait une drogue en 5 temps, de 2011 à 1911 à 1961.
C'est notre camarade Dominique qui anime la page du cirque, la page Facebook du cirque, qui a publié sur le site du cirque et qui est très intéressant.
Voilà. Donc on reviendra dessus après 1961, 1988, la convention unique contre les stupéfiants. Après 88-98, le tournant répressif. Après 98-2019, la contradiction.
2009 d'abord. Puis après 2009-2019.
Et après le dernier temps, encore 10 ans, est-ce qu'on continue ou pas? On verra bien.
Ouais.
Voilà, mais bon, je pense qu'on en a encore
peut-être pas
un petit peu. Donc on va revenir là-dessus.
Articles,
on reviendra aussi sur un truc qui se passe. La légalisation du cannabis fait baisser la consommation de tabac.
Aux États-Unis.
Donc voilà, aux États-Unis, dans les États qui ont légalisé, on peut pas le voir ailleurs,
Pas chez nous, en tout cas.
Voilà. Et puis après, on parlera de petits détails, de choses de la Californie. Encore un beau pays.
Ah, attends, c'est super.
Des AOC.
Mais ouais, c'est génial.
Des appellations d'origine contrôlée de certaines herbes. Bah oui, c'est génial.
Et puis, il y a quand même une université qui bosse dessus, quoi.
Bah ouais.
Avec des chercheurs.
Il y a des millions de sang. Et puis après, on reviendra sur les études. Donc, celles dont on vous a pas parlé, on n'a pas eu le temps de vous parler la semaine dernière. Je pense qu'on n'aura pas le plus de temps cette année. Avec le cannabis et les douleurs du cerveau ou le cannabis et les tumeurs cérébrales.
Non, contre la douleur cancéreuse.
Ah oui, pardon.
Et contre les tumeurs cérébrales.
Bon, c'était bien ça. C'était juste, j'avais mal lu. Ou trop vite. Voilà, voilà, un petit peu. Bref, sinon, il faut faire une alerte. Attention, attention, alerte sanitaire de l'IDF et d'Assud. IDF,
c'est... Non, Île-de-France, Assud, Île-de-France.
Ah, voilà, donc c'est une alerte sanitaire en Île-de-France. Donc si vous allez sur Paris, attention, alerte, alerte, alerte. Il y a des nouveaux produits qui sont arrivés. Il y a eu quelques overdoses qui ont eu lieu dans le 92 et le 93. Ces derniers jours, donc je ne sais pas de quand ça date, mais bon, c'est assez récent.
C'est très récent, c'est ces jours-là.
Voilà, donc c'est sur des consommations d'héroïne, donc il y a un taux d'héroïne normal, mais il y a un mélange avec des cannabinoïdes de synthèse, dont a priori un qui n'est pas très bon. Voilà ce qu'on peut dire.
Ouais, voilà, donc faut quand même faire attention si vous êtes concerné, si vous êtes amateur d'héroïne. Et que vous rendez dans le 9-2 ou dans le 9-3, voilà. Bref, voilà. Faites attention c'est si vous approvisionnez là-bas.
Voilà, des produits qui proviennent du quartier des cosmonautes à Saint-Denis. Et on ne sait pas exactement, voilà, sa diffusion à partir de là. Mais on sait que ça part un peu de par là-bas.
Voilà, mais il y a des recours quand même. Il y a des assos qui, visiblement, sont en état de vigilance dans le coin là-bas. Il y a le Carucide à Parole, le Gang du Lapin Vert et Prose. Donc ces trois Carudes voilà, font partie d'un dispositif d'analyse qui est disponible aussi. Enfin, il y en a un Acide à Parole, je pense qu'ils partagent un peu ce dispositif. Et il y a la possibilité d'accéder à des kits naloxone dans ces structures. Voilà. Donc, et vous pouvez aussi les appeler pour avoir des renseignements. Donc, Acide à Parole, Carude, Acide à Parole, Carude, le Gang du Lapin Vert et Prose. Voilà. Donc faites attention, si vous connaissez des gens qui peuvent être concernés, ben partagez l'information, elle est également présente sur la page Facebook du Cirque, et du Cirque Lyon, et ouais, du Cirque probablement peut-être aussi. Voilà, donc voilà. Méfiance.
Et deuxième puis, danger, la Tunisie.
Alors,
il faut faire attention.
En fait, je voulais parler d'autre chose avant. Je voulais parler de ce qu'il y avait au tout début. Je pensais que c'était surtout là-dessus qu'il fallait quand même communiquer d'emblée.
Eh ben, commençons par là.
Donc voilà, je voudrais quand même annoncer, et puis on va l'annoncer tous les... Alors pour l'appel du 18 juin à Poitiers, on va en parler toutes les semaines. Donc il y aura un appel du 18 juin cette année à Poitiers, donc dimanche 18 juin à 18h. On vous en reparlera au cours de ces prochaines semaines pour vous communiquer plus d'informations au niveau des lieux notamment. Et l'événement est également accessible sur la page Facebook du Cirque et du Cirque Lyon. Et plus proche de nous au niveau de la date, eh bien samedi, il va y avoir une canne à parade à Paris avec un départ à 14h place de la République, une arrivée prévue vers 16h à la Bastille. Voilà, donc après celle de Poitiers il y a quelques semaines, il va y en avoir une à Paris donc samedi là qui vient. Si vous êtes intéressé, si vous nous écoutez, que vous allez être sur Paris, eh bien voilà, rendez-vous 14h place de la République. Les infos pareillement sont disponibles sur la page Facebook du Cirque et sur leur site internet, sur la page Facebook du Cirque Lyon également. Et je vais aussi mettre tout ça sur notre page, sur notre site internet. Voilà. Appel du 18 juin à Poitiers, dimanche 18 juin à 18h. Et canne à parade à Paris le 27 mai, donc samedi, là, qui vient à partir de 14h, place de la République. Voilà. Et maintenant, on peut aller en Tunisie. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh ben, alors, ouais, deux étudiants en Tunisie qui ont été arrêtés parce qu'ils ont fait une petite chanson satirique qu'ils ont publiée sur TikTok. Une petite chanson humoristique, en fait. Et bon, vraiment pas grand-chose, hein, deux étudiants. Et ce qui, visiblement, aurait énervé les autorités, c'est notamment que dans la chanson, ils pointent l'hypocrisie de la police qui interpelle des usagers, des cannabinophiles, et qui, elle-même, pourrait également être attirée par la consommation du cannabis. Et donc voilà, ça a été pointé du doigt par ces deux TikTokers étudiants, ou deux étudiants TikTokers, je sais pas. Et ils ont vu débarquer chez eux toute une escouade de police qui s'est pointée, qui est venue les arrêter. Ils ont été mis en garde à vue, etc. Enfin bon, bref. Et il risque, hein. Il risque quand même de s'en prendre quelques années de prison. Il risque aussi de pas pouvoir terminer leurs études universitaires. Préoccupation de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme à Nabeul suite à cette interpellation. Donc ça craint. Et alors je sais pas, j'ai pas pu vérifier, mais j'ai vu dans un des commentaires que apparemment suite à ça a quand même créé beaucoup d'agitation et d'émoi, notamment sur les réseaux sociaux, qu'apparemment ils auraient été libérés. Tellement ça a déchaîné les commentaires des internautes, et il y a eu un soutien populaire en fait suite à cette interpellation. Apparemment ils auraient été libérés. Alors je sais pas si c'est une vérité ou si c'est
non, on va vérifier, on verra,
ouais. On aura peut-être plus de nouvelles dans les prochaines semaines. Mais bon, ça fait un peu penser à la France quand on voit ça.
Ah bah c'est un petit
on
peu pire, mais
pas
bon,
là, mais presque. Hein.
Ah ouais, presque. On n'est pas tout à fait dans la même dictature.
Non, c'est sûr, mais qui fait ça en France? Qui fait ce genre de qui oserait quels étudiants oseraient sur TikTok faire ce qu'ils ont fait en France et pointer l'hypocrisie de la prohibition et de la police? Parce qu'on a tous eu autour de nous des copains, des copines qui se sont fait piquer leur chichon par des policiers ou des gendarmes et qui après sont partis s'enrouler un peu plus loin. On l'a tous connu, cette histoire.
Oui.
Voilà. Sauf que voilà, eux au moins après, ils ruent dans les brancards. Il y a quelqu'un
des rumeurs de cette histoire.
Qui va avoir le courage de publier une petite chansonnette comme ça, satirique, sur TikTok, mais en France plus personne n'oserait le faire.
Moi je me souviens que quand la douane m'avait confisqué le peu d'herbe que j'avais sur moi et le copain qui avait un joint. Ils nous ont emmenés aux toilettes, ils les ont mis dans les WC, ils ont tiré la chasse, ils ont dit voilà, on vous met pas d'amende, on vous fait rien, mais au moins vous pourrez pas dire qu'on l'a fumé. Donc voilà, je tiens à rappeler qu'il y a aussi de temps en temps
des policiers qui tirent la chasse, tu veux dire.
Voilà, ils ne confisquent pas tous pour leur propre consommation.
Je disais pas ça. Enfin, en tout cas, ça existe et voilà. En tout cas, au moins ils l'ont pointé et que bravo à eux. En tout cas, mais encore une fois, je répète, plus personne, on dirait en France, n'aurait même le courage de faire ce qu'ils ont fait. Donc félicitations, ils méritent tout le soutien.
Il y a eu des chansons.
Mais quand? Là, il y a 6 mois, il y a 2 mois.
Ah non, mais il y a 10 ans.
Voilà, il y a 10 ans, ouais.
Avant, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, elles n'existaient même pas, celles-là, sur TikTok.
Mais c'était ailleurs. Mais bon, c'est une
Après, tu regardes dans tous les clips, dans tous les trucs, ils parlent d'herbes, ils parlent de produits souvent, quoi.
Ouais, non, mais ça, c'est.
Je suis pas assez au fait de toute la musique.
Mais... Ça, c'est des gens qui sont protégés par leur statut d'artiste, entre guillemets.
C'est pas des
chanteurs qui font des concerts et tout ça, c'est des étudiants qui poussent la chansonnette, tu sais, sur TikTok, t'as quelques secondes de temps de parole, je sais pas, bref. Donc, c'est tout, quoi. Donc, non, je trouve que ce qu'ils ont fait est courageux et, je veux dire, plus personne n'oserait faire ça en France aujourd'hui, quoi.
Il y a des gens qui seraient intéressés pour le faire. Sur la loi sur la consommation du cannabis et sur les agissements de la police.
Non, mais moi, je te parle pas de ça. Je m'en fous de ça.
Bon, bref.
Des artistes qui sont qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent et consommer même tout ce qu'ils veulent et on va pas les emmerder. Voilà. C'est tout. Allez, la suite.
Surtout la seule chose, c'est qu'il y a il y a eu un engouement, ça fait parler d'eux, mais bon, je dirais pas qu'en France on ferme notre gueule et sur les réseaux sociaux tu trouves tout.
Non, je dis pas ça.
Tu trouves des milliards de choses qui enfreignent les lois puisqu'il est interdit de dire du bien du cannabis en France. Et tu regardes.
Ah bon, parce que là récemment t'as entendu beaucoup de gens qui font ça.
Si tu regardes les réseaux sociaux, moi je sais pas, dans le groupe dans lequel je tourne, les gens parlent du cannabis, il y a des plants, tout le monde me montre les plants qu'ils ont fait. Tu vois, les petites graines, les gens mettent de jour le jour l'évolution de leurs plantes, etc. Plein de choses illégales, et on s'en est truffé, quoi.
Ouais,
sans parler de tous ceux qui te racolent pour te vendre des trucs directement sur Internet.
Ouais, mais c'est pas la même chose, je suis désolé, ça n'a rien à voir.
Oui, non, mais c'est vrai. Personne ne dit rien en France, plus personne n'ose rien dire.
Non, je parle pas de tout, de plus rien dire. Je te parle de ce sujet précisément là, celui dont on parle tous les lundis, je ne te parle pas d'autre chose.
Ouais, mais il y en a plein qui en parlent.
Ouais, ouais, régulièrement. Écoute, ouais, régulièrement. Toi, tu le vois, et ben tant mieux, mais je ne sais pas où tu vas.
J'ai pensé que peut-être on pourrait nous permettre de fumer nos bêtes.
Fumer.
J'ai pensé que le bien-être se retrouve dans la fête et que ce commerce fait recette.
Va te faire mettre.
J'ai compris en fumant que fumer c'est de l'argent.
Et j'en donne à des gens
qui allègrement amassent les bagues en diamant
sur dos de pauvres paysans. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation.
Faites fleurir les jardins,
décorer les balcons et expliquer à vos voisins que fumer vous coûte du pognon. Je veux fumer de l'herbe de qualité, boucher trou de la sécu en fumant mon tarpé.
Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité,
qu'on arrête de me considérer comme un drogué. Alors c'est bon, bang, boum. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pilons.
Qu'on n'arrache pas tous mes pilons. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pilons.
Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pilons.
Il faut bien espérer. J'ai pensé que peut-être tout c'est une malhonnête
serve à nos dirigeants
qui s'entêtent et répètent à dire que la fumette
c'est pas bon pour les gens.
J'ai compris que pour du chichon, tu peux aller en prison.
Que l'alcool tue à foison.
Que si la légalisation n'est pas le mot d'ordre de ces bouffons,
c'est qu'ils ont de bonnes raisons. Alors c'est bon, bang, boum. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation.
Faites fleurir les jardins, décorer les balcons.
Expliquez à vos voisins que fumer vous coûte du pognon.
Je veux fumer de l'herbe de qualité, boucher le trou de la sécu en fumant mon tarpé.
Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité,
qu'on arrête de me considérer comme un drogué. Alors c'est bon, bang, boum.
J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds. Alors c'est bon, bang, boum.
On n'a pas le droit.
Oui, oui, c'est bon, c'est bon. On va continuer. Bref, trio, la main verte. Bref, en tout cas, on verra comment sera la Canna Parade à Paris le 27 mai et l'appel du 10 juin à Poitiers et ailleurs. On vous relayera tous les 18 juin dont on entendra parler parce qu'a priori, il n'y en aura pas à Lyon. Allez, on va passer à tout ce qui se passe en France, où ça évolue très très vite, avec l'Assemblée nationale qui va accueillir les travaux d'un groupe d'études sur le cannabis. Voilà, c'est le député insoumis de Haute-Garonne, Christian Bex, qui parle de ça et qui est interviewé en exclusivité par le cannabiste.
Christophe.
Christophe Bex.
Et pas Christian.
Bon.
Bah oui, non mais bon, c'est pas... Okay. On peut Christophe. Lui laisser son prénom quand même.
On va laisser lui enlever son prénom. Christophe Bex. Bref, alors, quelles sont les raisons qui vous ont conduit, votre groupe, à vous, d'investir dans le dialogue en matière de cannabis, votre look de jazzman ou votre expérience personnelle? Il parle d'abord, il ne répond pas du tout à la question hein, sur les expériences personnelles. Il faut un peu de pudeur.
Voilà.
la France, il est interdit de dire que c'est bon, il est interdit de dire qu'on en a consommé. Donc. Bref, la France insoumise a intégré dans son programme l'avenir en commun de la légalisation et l'encadrement par un monopole d'État de la consommation, la production, la vente et le cannabis à des fins récréatives. Bref, il s'est porté volontaire là-dessus. Quelle forme va prendre le projet parlementaire? Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de mobiliser le plus largement possible, de dépasser, de reprendre les travaux précédents, en particulier les propositions de loi sur la légalisation et la production, la vente et la consommation de cannabis sous le contrôle de l'État, comme son collègue Éric Coquerel l'avait fait. Bon, après, il pourrait parler un petit peu des Verts, il pourrait parler aussi des autres petites expériences des maires, voilà, bref. Troisième question de le cannabis, comment envisagez-vous d'aller à la rencontre des électeurs sur ce sujet, sous quelle forme et sous quelle perspective. Bon, bref, c'est un travail, il rappelle que c'est un travail volumineux, ce travail constitue un solide socle pour lancer les prochaines auditions. Bref, il veut juste aller à la rencontre de toutes les personnes concernées de près ou de loin par cette thématique, pour donc faire une proposition de loi relative à la légalisation de la production, de la vente, de la consommation du cannabis sous le contrôle d'État. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire ce groupe d'études
Ouais, en quoi il peut être utile, comme le dit le cannabiste judicieusement, en posant la question, là où les travaux de la mission cannabis et du Conseil économique, social et environnemental sont ignorés. Alors, bon...
Elle n'a aucune réussite sur la certitude de la... Aucune certitude de la réussite sur ce groupe d'études.
Il faut faire preuve d'humilité.
Même si plus de la moitié, 57% des Français sont pour la légalisation. Et bref, en tout cas, il veut chercher une légalisation sur trois points, pour une meilleure prévention, pour un développement local et pour un apaisement sécuritaire. Ce qui est des bonnes thématiques.
Bah, ils cherchent des angles de communication, quoi, en fait. On ne sait plus trop comment faire, faut reconnaître.
De toute manière, quand on voit le nombre de morts, le nombre de jeunes qui se font descendre ou qui tuent pour ça, on voit bien que c'est un problème de la prohibition et de rien d'autre. Hein. Mais bon, il n'y a que des crétins pour dire que c'est à cause du cannabis. Non, c'est à cause de la prohibition des drogues et du cannabis en particulier, ou selon les cas. Bref, le cannabis, comment percevez-vous la guerre à la drogue? Quelle solution permettrait de limiter les usages précoces et problématiques selon vous? Donc, il rappelle que la guerre à la drogue actuelle est néfaste sur le plan humain. Elle touche plus particulièrement les classes défavorisées et la situation empire. Il est grand temps de changer de stratégie. Voilà, donc il faut confier le pilotage de la politique de lutte contre la drogue au ministère de la Santé et non plus à celui de l'Intérieur. Voilà, pensez-vous qu'il faille lutter contre la consommation du cannabis en général? Donc il parle surtout de l'usage problématique et de dépendance du cannabis qui concerne 7% des adolescents de 17 ans. Donc les chiffres n'ont pas changé beaucoup depuis quelques années. Voilà, donc, et surtout une légalisation de la production légale et de la distribution permettront d'affecter les recettes des taxes sur le cannabis à des programmes de lutte contre les addictions, notamment en milieu scolaire, à une politique de prévention, de réduction des risques et d'aide à la désintoxication qui auront pour conséquence la baisse douce de la consommation.
La baisse douce de la consommation, c'est bien dit.
Voilà, mais d'ailleurs, si on regarde bien les chiffres et ce que l'on sait, c'est que rien que sortir de la prohibition, ça abaisse tout de suite le nombre de consommateurs chez les adolescents.
Oui, chez les adolescents, c'est ça.
C'est
on a bien vu avec
partout,
les États-Unis.
Et aussi bizarre que ça paraisse, plus les lois sont répressives et plus il y a de consommation.
Oui.
C'est le truc qui est le plus anti-logique, mais qui...
Bah c'est un peu contre-intuitif, oui, effectivement.
Voilà,
mais...
tout à fait.
Mais bon, on le sait bien que c'est comme ça, quoi. Alors, on continue toujours en France. On vous a parlé des pénuries d'huile à base de CBD pour approvisionner des centres de soins ou enfin directement et indirectement les malades qui participent à l'expérimentation et qui ont besoin de ces produits pour se soigner. Et là on a un article de Newsweek là qui nous parle d'une boîte australienne qui s'appelle Little Green Pharma qui a répondu à deux appels d'offres tout récemment là. Pour une huile CBD 50 et une huile THC CBD 20-1, donc c'est le ratio 20 pour 1. Voilà. Eux, ils ont répondu à l'appel d'offres malgré la baisse malgré une rémunération quand même très faible. Et on avait expliqué il y a quelques semaines qu'il y avait pas mal de fournisseurs qui se plaignaient en fait du prix qui était trop bas et qui disait non, nous on répond pas à cet appel d'offres, on veut pas être payé à ce prix-là. Bon, en tout cas, Little Green Pharma a répondu et a accepté les conditions, en tout cas, de l'administration française. Voilà. Alors, si dans le détail, on peut en parler deux heures, mais bon. Il a été attribué donc cet appel d'offres sur une quantité déjà de 11 000 unités d'huile CBD THC 20 pour 1. La rémunération proposée était toutefois, apprend-on, trop faible pour l'huile CBD 50. Voilà. Et un deuxième appel d'offres proposé par le gouvernement avec un budget jusqu'à 1 million d'euros. Donc voilà, Little Green Pharma a donc soumis séparément une offre pour fournir son huile CBD 50 pour la prolongation de l'expérimentation, et ils indiquent que selon les termes de l'appel d'offres, elle était autorisée à proposer des prix commerciaux jusqu'à un plafond d'un million d'euros pour l'équivalent de 22 500 bouteilles d'huile CBD 50. Voilà. Si ça peut intéresser certaines personnes de rentrer dans le détail du détail. Si vous voulez lire tout ça à tête reposée, si vous voulez, vous êtes vraiment intéressé, ben toujours pareil, hein, page Facebook du Cirque Lyon, c'est un article de Newsweed. Ce qu'on apprend également dans cet article, c'est que si le cannabis est légalisé en France, je cite, hein, c'est une citation, Little Green Pharma pense que le nombre limité de fournisseurs de l'essai lui donnera une rare opportunité de capitaliser sur l'un des plus grands marchés potentiels du cannabis médical en Europe. Donc eux, ils se positionnent et donc ils ont mis le pied dans la porte. Hein. C'est un peu ça leur projet en tout cas. Ils ont des partenaires dans ce projet, parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Voilà. Il y a aussi une boîte française qui s'appelle, j'ai mangé le nom, Incel Chimos, voilà, une entreprise pharmaceutique française, et Center Lab, un fabricant de produits pharmaceutiques qui travaille en étroite collaboration avec Incel Chimos en France. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce sujet.
Que le meilleur gagne.
Voilà. Enfin, en tout cas, bon, c'est tout ça pour dire que
les patients, ils ont leur médication, et c'est ça le principal.
C'est ça le principal. Alors, voilà, par contre, je ne sais pas quand ça va arriver.
Si, là, c'est passé, donc normalement, le premier...
Ça peut prendre un petit moment. Ils ont répondu à l'appel d'offres, c'est parce qu'ils ont répondu que après-demain, les 22 500 bouteilles arrivent, quoi, je veux dire.
Pour la dernière partie, mais pour tout le reste, qui fait 80% du volume... Le premier est passé, appel d'offres.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas arrivé là, en France, les bouteilles sont pas dans le centre de soins prêtes à donner encore, c'est ça que je veux dire. Ça va prendre un petit moment.
Voilà. Oui, ça va assez vite.
Ouais, bon, si tu le dis,
ça peut aller assez vite. Hein, ça peut aller assez vite s'il y a de la demande, puis ils ont avancé relativement vite, ils sont en retard, mais ils ont avancé relativement vite.
Voilà, moi je pense que quand les bouteilles seront arrivées, on le saura. Et on verra le temps que ça a pris. On verra.
Voilà. Mais bon, pour l'instant, je pense pas qu'il y ait de pénurie, donc il n'y a pas péril en la demeure. Puis ils en fournissaient plus ou moins gratuitement. Alors je sais pas s'ils ont arrêté, s'il y a des stocks quelque part. Voilà, je pense que.
Eh ben, on verra.
Allez, HHC. Peut-on vraiment interdire le HHC? L'hexahydrocannabinol.
Qui fait un peu parler de lui depuis 2-3 mois, dont on a entendu parler il y a un petit peu plus longtemps, mais qui fait plus parler de lui ces dernières semaines.
Voilà, on a parlé un petit peu déjà à cette émission, c'est sûr.
Vite fait.
Voilà, parce que tous les nouveaux produits, ils ne sont pas forcément dans la liste des conventions des Nations Unies.
Il y a des trous dans le gruyère.
Et vous savez que tout produit est un stupéfiant parce qu'il est inscrit dans le tableau des stupéfiants.
Voilà.
Donc tant que
il est pas inscrit,
chaque substance nouvelle, comme ce fameux HHC, cet hexahydrocannabinol, il n'est pas encore inscrit dans le tableau des stupéfiants pour l'instant. Donc, il n'est pas interdit.
Oui. Alors le ministre de la Santé a dit que c'était une affaire de semaine, mais c'est loin d'être aussi simple en fait. On va voir. Point de vue juridique en général. Vers qui on se tourne en France? Alors c'est un article du Cannabiste, hein, il me semble. Oui. Non, de Newsweed. En France aujourd'hui, vers qui on se tourne quand on a des questions juridiques? On se tourne souvent maintenant vers Yann Bizou, qui est spécialiste du droit de la drogue et qui expose donc dans cet article que l'interdiction du HHC en France reposerait probablement sur sa classification en tant que stupéfiant. Bah oui, forcément. Pour ce faire, soit il est déjà inclus dans la liste des stupéfiants, soit par exemple dans la catégorie des cyclohexylphénol, comme cela avait été mentionné à un moment, et le cas du HAC est réglé. Soit ce n'en est pas un et son interdiction risque de prendre plus de temps. Elle reposerait alors sur la nécessité de devoir prouver le risque pour la santé publique et ou le risque, de dépendance. Voilà. Ce qui voudrait dire plusieurs mois, plusieurs années même, nous dit Yann Bizou, parce qu'il faut le temps de faire des études.
Puis on connaît la non-validité de certaines des études.
Oui. Alors en même temps, je ne sais pas à quel point le ministre de la Santé peut s'asseoir sur tout ça pour valider son interdiction. Parce que par le passé, il y a quand même eu pas mal de produits où, à mon avis, se sont passés des éventuelles justifications pour prouver la nocivité des produits. Donc,
tout à fait, il y a plein de produits, ils ont fait un décret, ils trouvaient une nouvelle molécule, elle apparaissait, voilà. Ils l'analysaient et ils la remettaient dans la liste. Alors peut-être qu'ils la rattachaient à un genre.
Ouais, c'est vrai.
C'était ça la nuance juridique va faire passer Yann Bizou. Et peut-être qu'il a raison, mais là, comme il y a du cannabis dedans, vu que c'est un exo-hydrocannabinol, peut-être que sous le nom de cannabinol, on peut le rattacher aussi à ça. À savoir, c'est pas parce que c'est un polycyclique que ça va changer grand-chose, mais bon, voilà. Bon, bref.
Alors, pour le moment, pour être vraiment précis, il faut en fait définir les effets de la substance, et c'est pas encore fait, en fait. Et les résultats pourraient arriver le mois prochain. Donc bon, c'est en cours en fait. On n'a pas en fait défini les effets de la substance. Ça fait un petit peu rigoler quand même quand on voit le déchaînement médiatique, parce que ça a quand même fait couler beaucoup d'encre, alors qu'en fait, à la base, il n'y a pas grand-chose. Là, dans cet article, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. À ce jour, je cite, un signalement est remonté des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance. D'effets psychoactifs chez une personne après exposition respiratoire à du CBD contenant du HHC, selon la Direction Générale de la Santé. Déclaration faite au journal Le Monde. Pour Anne Baptiste, qui est responsable du Centre d'addictovigilance de Paris, de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, donc pour cette dame, le danger du HHC, c'est surtout que des usagers non avertis pourrait se ruer vers ce cannabis dit légal, sans préconisation d'emploi, sans savoir que cette substance est accidentogène et sans qu'on en connaisse encore tous les risques. Alors, les associations, elles, ont aussi eu leur mot à dire, en tout cas, elles ont leur mot à dire a été recueilli dans cet article, et elles insistent sur les risques de métaux lourds et de résidus de solvants et sur l'absence de traçabilité et de transparence sur la provenance et la fabrication du HHC. Et conclusion bienvenue, je trouve, des arguments autrefois employés pour évoquer le CBD. Et oui. Et en fait, on s'aperçoit encore une fois que c'est pas tout ça uniquement et toute la vérité de cette situation, mais on s'aperçoit encore que on est dans une situation de marché noir, donc les produits sont loin d'être de bonne qualité. En fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et en fait, est-ce que c'est vraiment le HHC qui provoque des désagréments, et des problèmes en fait de santé, ou est-ce que c'est finalement les produits avec lesquels ils sont fabriqués et qui produisent ces effets-là, quoi, ou un mélange des deux. Et en fait, voilà, c'est la prohibition, c'est un système non réglementé et des produits.
On essaie de sortir des nouveaux produits, donc des produits légaux tant qu'ils ne sont pas interdits, parce que c'est légal tant que c'est pas interdit. Voilà.
Mais donc, en fait, on ne sait pas bien ce que c'est aussi, quoi.
Et on ne sait pas bien ce que c'est
parce
aussi.
Que comme il n'y a pas de contrôle au niveau de la fabrication.
Une bonne plante, c'est bien.
Voilà.
Allez, on va continuer avec le CND à Viel.
À Vienne. Tu veux pas je crois que tu allais mettre de la musique.
D'accord. Non, on va finir. Là, oui. C'est vrai, on peut mettre de la musique, t'as raison. Il vaut mieux.
Un petit morceau.
T'as du feu ?
Non.
Mais c'est interdit de fumer ici.
Non plus.
Ah, ici aussi.
T'as mis le générique ? Ça vient, ne vous inquiétez pas. A tout de suite.
Gag
émigrer au débat tactique, nous allons faire tous les deux. Quand la boulette est petite, faut-il faire un joint ou deux? Faut-il tout fumer de suite ou attendez un petit peu? Répondez-moi, je le veux.
Moussu, tu tombes à pic, ce sujet je connais bien.
Ah bon?
J'ai tant d'années de pratique que mon choix sera certain.
Oh, bah, bah, bah,
moi, je fais un micro-stick et le reste dans un coin. Je le garde pour demain.
Bonne part. Gary Grew, c'est vraiment grave, je te reconnais bien là. Ta tactique est super naze, car on n'est jamais fracas. Mets-toi donc à la Gauloise et cours aussitôt au tabac. Ils n'attendent plus que toi.
Moussu, t'es comment tu parles, moi je suis resté poli.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Quand il n'aura plus que dalle, qui viendra faire le joli? Qui partira en cavale au beau milieu de la nuit pour un choco de cambouis?
Gary Grew, mets la ceinture car j'élève le débat. Même si pour toi c'est dur, quand on aime on compte pas. Et dans la frie confiture, il n'existe qu'une loi. Fumer ne calcule pas.
Moussu, t'es si on t'écoute, on est dans un beau merdier. On est des mamies sans doute, mais un seul jour par année. Si on te suit, on est moute, même en début de soirée. À 8h on est couché.
Ça me prend la tête, je vais te dire franco.
Allez, dis-moi.
Je me fais me rouler un pet et j'y mettrai tout le morceau. Et sur une autre planète, je partirai aussitôt, loin de tes plans de
colo. Moussu, t'es allé, dégage, tu m'as gonflé le testo.
Ah, tu parles mal,
et si j'étais pas si brave, ça finirait en baston.
Allez, la violence, allez, vas-y.
De parole, tu te caves, mais c'est moi qui ai le chichon. Tu vas rester comme un con.
Crois-le, hein.
Hop, la bande de Mastra. Il faut arrêter les frères. V1 dirait de Jovastra. Vous allez nous faire manquer. Donnez-moi cette boulette et deux feuilles de rizla. Un morceau de cigarette et ça ira comme ça.
On va en écouter 10 quand même.
Nous revoilà. Donc, on a
Sylvia Sound System, un son du
de bambou. Ah ouais, morceau qu'on n'avait pas écouté et que nous apprécions bien. Alors, on va parler rapidement.
Donc, de la CBN à Vienne.
La CND.
La CND. Voilà, la Commission on Narcotic Drug. CND.
Ouais.
Commission on Narcotic Drug de l'ONU.
Et ses évolutions au cours de 100 et quelques années d'histoire.
Voilà, donc notre ami donc, Alexandre Marchand, docteur en histoire de l'ENS de Cachan, commence. Énième symposium d'une bureaucratie onusienne qui tourne à vide ou véritable arène décisionnelle qui pourrait prendre le grand tournant tant espéré des partisans de la légalisation et de la réduction des risques. C'était la 62e session. Donc, que s'est-il passé à la CND? Petite leçon d'histoire. Premier temps, émergence d'un système international de contrôle des drogues de 1911 à 1961.
Donc voilà, c'est important de commencer et d'expliquer précisément, parce que vous allez le voir, le départ, c'est quand même pas du tout un organe de prohibition. On répète, c'est un système international de contrôle des drogues. Voilà, elle est censée chaque année développer des stratégies internationales de contrôle des stupéfiants et de proposer des mesures afin de combattre le problème mondial de la drogue.
Objectif ambitieux.
Voilà, qui contraste avec la grande inertie qui caractérise depuis plusieurs années le cadre international de la guerre à la drogue, mais qui reflète surtout une posture schizophrène oscillant entre le contrôle et la répression des substances psychotropes. Pourtant, il y a plus d'un siècle, l'objectif était clair, créer une économie légale et contrôler des narcotiques entre les États, définir des usages légitimes des drogues, encadrés par des prescriptions et les conseils des médecins et pharmaciens, plutôt qu'interdire. C'était ça au départ. C'est important de revenir vraiment sur les origines. Et les conventions internationales de l'ONU sur les stupéfiants sont les héritières des premiers accords internationaux qui furent scellés au début du XXe siècle pour organiser le marché international, mais légal, de l'opium et de ses dérivés depuis la Convention de La Haye de 1912. Elle réunissait de nombreuses puissances coloniales soucieuses de réguler la production est de restreindre le grand déversement d'opium indo-britannique sur l'Empire de Chine agonisant, dont étaient complices les membres autour de la table. Donc les membres autour de la table, c'était bon, l'Angleterre, mais il y avait aussi la France, les États-Unis et d'autres pays. Puis les choses ont changé. Je continue un petit peu. Le début est important. Après, on ira plus vite. Hein. Cet accord international prohibait toute vente ou usage des opiacés et des dérivés de la cocaïne qui ne seraient pas contrôlés par les industries pharmaceutiques et la profession médicale.
Oui, c'est toujours ce que tu as dit tout à l'heure. L'usage légitime des drogues encadré par les prescriptions et les conseils des médecins et pharmaciens.
Tout à fait.
Plutôt que de l'interdire, donc.
Exactement.
On laisse bien cette fenêtre ouverte pour les Big Pharma.
Oui, effectivement, sauf que c'est devenu bien plus que ça, après. Puisqu'en fait, ce qui est expliqué un peu plus loin, c'est qu'en fait, ça visait en fait à contrôler des usages de substances qui en fait étaient détournées ou étaient, détournées. Des usages pharmaceutiques et dont les consommateurs étaient des pouvaient être des médecins justement ou des artistes et en fait c'était ça qui était prévu au départ quoi. En fait c'était contrôler ces gens-là en fait qui n'étaient pas forcément vus comme une menace pour la société. Voilà.
Et puis c'était bien pour l'État qui se faisait ses taxes hein. Il y avait oui. on se rappelle au Maghreb la régie du tabac et du kiff. Il y a eu, je crois que c'était en Tunisie, il y avait même aussi la régie de l'opium, parce que je crois que Barr avait dit qu'il en avait consommé quand il était en Tunisie, que c'était légal. Donc c'était dans toutes ces années 60. Deuxième temps, le contrôle international dépasse, c'est par la massification des usages de 1961 à 1988. Avec les années 60, le regard sur les usages illicites se transforma dans le sillage de la contre-culture. Les drogués cessèrent d'être d'anciens patients nostalgiques de traitement opiacés. La toxicomanie iatrogène devint récréative et subversive.
La toxicomanie iatrogène devint récréative et subversive. Donc, ça va troubler un peu le pouvoir, j'ai envie de dire, et les organismes de contrôle, puisque là arrivent les
beatniks avec la polytoxicomanie, le LSD,
et qui consomment plein de produits en fait, et puis pas que des produits,
pas que du cannabis, hein.
Et puis pas que des opiacés détournés de, enfin qui étaient des anciens patients nostalgiques de traitement opiacé quoi, c'est ça. LSD aussi et des produits je dirais enfin des amphétamines déjà bien sûr hein. Des amphétamines qui étaient déjà en vente libre dans les pharmacies ou conditionnées à la prescription médicale, des produits que certaines ont pu connaître hein, dans les années 70 ou 80 comme le Maxiton, la Préludine, le Captagon dont on entend parler beaucoup ces dernières semaines. On entend beaucoup parler du Captagon, dont la Syrie serait un des plus gros producteurs. On entend pas mal hein, parler. Bon, c'est pas un produit nouveau, pas du tout.
Non, on en a parlé aussi tout à fait avec les qui donnaient ça à certains fous de Dieu pour les stimuler aussi.
Bon. Oui, c'est un produit ancien hein, qui était déjà consommé pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, tout à fait. Ça tient un super éveillé, ça met dans un état un peu
euphorique, j'imagine.
Oui,
ou en tout cas réveillé. Donc, on parle ici aussi dans cette partie du LSD. Donc, établissement par les textes internationaux de nouvelles listes au pluriel de substances dangereuses. Et là, on voit arriver des hallucinogènes, des cannabinoïdes, les amphétamines, les barbituriques qui permettent de soumettre à la vigilance du contrôle les nouvelles street drugs, médicaments détournés et revendus par les dealers des qualudes, comme la métaqualone ou d'angel dust, comme la phénicyclidine. Et là, la convention invitait les États signataires à prendre des mesures fortes contre l'abus des substances psychotropes, car les recommandations de la commission des stupéfiants ne pouvaient plus suffire Et là, chaque État y a là de sa sensibilité, selon sa sensibilité, plutôt répressive et prophylactique. Dans le cas français, depuis la loi de 70, plutôt libérale et tolérante, dans le cas de la nouvelle opium mouette des Pays-Bas en 1976. Et c'est à partir de là qu'on, dans les années 80, qu'on voit la convention, le nom un peu populaire se transformer. On parle maintenant de convention de Vienne. Et les sièges onusiens anti-drogue se relocalisent donc vers Vienne avec l'OICS et la CND. Voilà. Après tournant répressif entre 88 et 98, avec la mise en place d'un système de lutte internationale contre le trafic illicite. Donc là, on est complètement sorti du contrôle international. Hein. On n'est plus
c'est
tout dedans.
War on drug.
Voilà, exactement. Exactement.
C'est les années Reagan, ça fait erreur, c'est repris par les Sarko et tout ça, quoi. C'est guerre à la drogue à tout craint avec une attaque contre toutes les triades, toutes les mafias d'un côté, et puis contre les Pablo Escobar, contre toutes les choses avec des centaines de milliers de morts quand même. Hein.
Oui.
Je sais pas.
Bah, c'est long, hein, faudrait qu'on s'y attende.
Ouais,
un peu
c'est
plus,
ce tournant répressif. Hein,
accentuation, oui.
C'était dans les années où justement la CND disait bah, dans 10 ans, on ne parle plus de drogue, on aura tout éradiqué. Quoi. On voulait éradiquer la feuille de Coca-Cola, les cocaïers, l'opium et le pavot, et le cannabis et le chanvre. Des plantes qui existent depuis des millénaires et qui sont réparties sur toute la planète. Qui pousse en demander rien à personne.
Alors c'est effectivement ce qui a été déclaré en 98. Effectivement, c'est-à-dire l'éradication de la drogue en 10 ans. Voilà, la guerre à la drogue américaine devenait finalement définitivement un horizon international. Et donc voilà, c'est la déclaration finale de l'Assemblée générale extraordinaire de l'ONU. Qui donc prévoyait donc cette élimination totale de la drogue dans le monde dans un délai de 10 ans. Et ben ça n'a pas marché.
Voilà. D'où on arrive dans le quatrième temps, les contradictions de la prohibition internationale, donc 1998-2019.
Et ben oui, alors ça continue.
Voilà, outre le fait que s'attaquer à la nébuleuse des organisations criminelles transnationales est un combat policier sans fin, et partant perdu d'avance, c'est oublier la fonction première d'un système international qui s'est tellement complexifié qu'il en vient maintenant à se contredire lui-même. Car comment interdire ce qui est de l'autre autorisé et encadré en vue de la fourniture en amont des industries pharmaceutiques, au fondement même de nos systèmes de santé depuis un siècle ? Voilà, l'oubli des enjeux premiers du contrôle international des drogues est devenu un trait caractéristique des acteurs participant aux arènes internationales. Constate le sociologue François-Xavier Dudouet. Voilà, voilà, donc on continue, hein, on rappelle les guerres. Hein, donc en 2009, on avait réajouté qu'on allait éradiquer la drogue, etc. Et il y en a des pays qui se sont attaqués à la guerre à la drogue. Hein,
oui,
le Mexique, par exemple. 40 000 morts.
Ouais, bravo.
Plus que dans n'importe quelle guerre civile ou n'importe quelle autre guerre, par rapport à. C'est par rapport à même la. Comment dire. Russie et Ukraine, 40 000 morts, c'est 10 voire 100 fois plus.
Ouais. Non, mais c'est. C'est fou. Et puis, bah, il faut. Et puis alors, 40 000 morts, puis. Pas d'effet. Enfin, je veux dire, ça n'a pas fait diminuer la culture et les trafics illicites. C'est quand même toujours ça qu'il faut rappeler. C'est que même en tapant très fort, même en mettant vraiment de très très gros moyens, mais ça ne marche pas. Mais ça n'a jamais marché nulle part d'ailleurs. Ça ne marche pas au Mexique, ça n'a pas marché aux Philippines avec Duterte il y a 5 ou 6 ans. Ça n'a pas marché en Thaïlande au milieu des années 2000. Ça ne marche pas en France, ça ne marche pas. Enfin, voilà. Donc. Mais ça continue, mais des voix dissonantes.
Démocratie oblige.
Ouais, ah, ouais, ouais.
Les institutions sont obligées d'ouvrir un peu leurs esgourdes. Hein.
Exact.
Parce qu'il y a pas mal de think-tanks transnationaux comme, on va pas les citer, l'IDPC ou encore bon, Normal ou n'importe qui. Donc, qui amène une nouvelle parole en disant que ben, ça sert à rien. Et puis, ben, on a des arguments quand même qui sont assez solides.
Alors, on les écoute pas trop, les activistes, mais il y a quand même des endroits où bah, on a vu, hein, il y a des pays qui ont modifié leurs lois. Et des États aux États-Unis qui ont modifié leurs lois. Donc, en fait. Pardon?
Ça avance, il y a l'Uruguay, il y a le Canada, et des États. Ça, tout à fait.
Et donc, se repose la première question que se posait. Monsieur Marchand, au début de son article, c'est-à-dire, est-ce que, en fait.
Est-ce qu'on rentre dans la phase de légalisation?
Voilà. Exactement.
Mais ben non.
Oui et non. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, l'avenir n'est pas écrit d'avance, hein, comme il dit pour les.
Voilà, tout à fait. Parce qu'il y a le cinquième temps de demain, hein. Donc le changement par les États plutôt que par le consensus de Vienne, point d'interrogation.
Donc les organismes internationaux à ce niveau-là, finalement, vont peut-être s'avérer complètement inutiles.
Voilà, parce que la décennie qui s'achève n'invalide pas le scénario, mais au contraire en légitime peut-être les prémices de cette légalisation étatique.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que à ce niveau-là, la démocratie peut finir par triompher, parce que ces organismes internationaux ne sont en rien démocratiques. Et que on voit bien ce qui se passe dans certains États, comme des États-Unis, ou l'Uruguay, le Canada, où à la fin, c'est passé par-dessus les avis des organismes internationaux comme l'ONU DC et compagnie, qui continuent à dire si, il faut éradiquer la drogue, mais finalement, de plus en plus d'États leur tournent le dos et font autre chose. Et ça, c'est plutôt une super bonne nouvelle, mais l'avenir n'est pas écrit d'avance, encore une fois. Encore faudra-t-il comprendre qu'il ne faut peut-être pas s'opposer vent debout aux conventions, mais revenir à l'esprit régulateur des tout premiers textes. Donc c'était des textes pour organiser et pour contrôler, et pas pour éradiquer et prohiber et foutre tout le monde en prison. Il considère aussi que l'initiative ne viendra probablement pas de la répétition annuelle des très formelles réunions de la CND au bord du beau Danube bleu. En mars dernier, malgré l'inclusion d'objectifs mentionnant la substitution, la réduction des risques ou les alternatives à l'emprisonnement pour usage simple, et la prise en compte de la crise américaine des opioïdes, la déclaration finale relança tout de même la stratégie de la guerre à la drogue pour 10 ans de plus. Donc rendez-vous en 2029, bientôt la valse à mille temps. Point d'interrogation. Donc voilà, ça continue, mais en même temps, tout le monde se fiche des avis de la CND, quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et on espère que ça va continuer comme ça, finalement. Voilà.
Si la CND avait dit qu'il fallait pris tous ensemble l'idée qu'il fallait légaliser, ça serait mieux, quoi.
Oui, mais visiblement, c'est pas ce qui se passe là-bas.
A priori, les forces progressives ne sont pas encore arrivées là-bas.
Non, voilà, exactement. Elles sont dans les États et la démocratie a permis quand même l'émergence de meilleurs projets, pratiques, de bonnes pratiques de gestion des problèmes de.
Les écolos, ils y vont en vélo, voilà. Alors que les autres, ils vont en jet, donc ils y sont dans 10 ans.
Ça doit être ça. Allez. On va terminer, puisqu'il nous reste 5 minutes. On va d'abord parler donc de ces États américains qui voient la consommation de tabac diminuer. Ces États américains qui ont légalisé.
Le cannabis,
exact. Alors, il y a des recherches qui sont menées à ce sujet. Et là, il y a une nouvelle étude qui est parue et qui montrerait que la légalisation du cannabis est principalement associée à des baisses légères, parfois significatives, de la consommation de tabac chez les adultes à plus long terme. Mais bon, on ne sait encore pas tellement, il y a plein d'hypothèses qui sont échafaudées, mais en tout cas, il y a ce constat qui est fait quand même. Voilà, alors, c'est pas encore définitif. Hein. Je sais pas si tu veux vraiment rentrer dans le détail des études qui sont sorties à ce sujet.
Non,
c'est super intéressant. C'est super intéressant.
Vous pouvez le retrouver sur le site du Cirque.
Sur la page Facebook du Cirque. Et du Cirque Lyon, surtout. Parce que je suis pas. Oui, du Cirque Lyon, c'est un article Newsweek. Je sais pas si le Cirque a partagé. Mais si vous voulez rentrer dans le détail, parce que c'est quand même très, très complet.
Il y
a quand même plusieurs études qui sont croisées et qui permettent quand même d'expliquer ce qui ferait que ça fait baisser le nombre de consommations, la baisse de la consommation du tabac dans ces États. voilà, plusieurs effets. La légalisation préalable du cannabis thérapeutique, le développement de d'autres manières de consommer, comme les vapoteuses ou des produits alimentaires, etc., etc., qui tendraient à faire plus ou moins marginalement baisser la consommation de tabac entre 1,2 et 1,3 points de pourcentage. Voilà. Ensuite, je pense qu'on va vraiment finir là-dessus.
La Californie.
Ah oui, alors là, j'ai trouvé cet article magnifique.
Les appellations d'origine contrôlée.
J'ai trouvé ça sympa. Franchement, ça m'a fait rêver presque.
Ah. La Croix-Roussienne, ça serait joli quand même.
La Croix-Roussienne, ouais. Pourquoi pas, ouais. Ou, je sais pas, ou.
La Rambertoise.
La quoi, là?
La Rambertoise.
La Rambertoise, ouais. Ou. Ou, je sais pas, la Sainte-Foy les Lyonnaises, je sais pas comment dire.
La Canute.
La Canute, ouais. Mais en tout cas, il y a une université, l'université de californienne de Cal Poly Humboldt, donc c'est au nord de la Californie, qui mène une recherche à ce sujet sur les variétés. Je trouve ça, mais c'est quand même génial, quoi.
2,7 millions de dollars quand même, hein, pour travailler là-dessus. Hein.
Ouais, c'est pas clair. Ouais, ils rigolent pas aux États-Unis.
Ah ouais, c'est. Bah, c'est pour la Californie, c'est un grand pays, hein, mais.
Alors, l'étude, elle est quand même menée par des chercheurs, donc, en cannabis, en collaboration avec des cultivateurs locaux de cannabis. Et donc, les chercheurs recueillent des informations sur les différentes souches et les variétés de cannabis, ainsi que sur les techniques de culture uniques de chaque région. Ils travaillent avec les cultivateurs pour enregistrer des histoires orales et des expériences qui ne sont souvent pas documentées. Et cette étude, elle prévoit d'établir également une protection collective de la propriété intellectuelle de leur génétique à travers les herbiers. Une cartographie génétique accompagnera l'étude afin d'identifier les caractéristiques des différentes lignées végétales.
Mmh.
C'est beau, mais, non?
Ben, n'empêche que tout ça, cette certification AOP-AOC pour le cannabis en Californie, est quand même, y a une loi, la loi 67,
ouais,
qui garantit l'origine géographique, la qualité supérieure des produits de cannabis, l'emploi des variétés reconnues et définies. Et cette certification, donc, qui est contrôlée, permet aux producteurs de cannabis de valoriser leur production en leur donnant un cachet d'authenticité et une reconnaissance officielle. Voilà,
bah, ouais,
l'appellation d'origine contrôlée, il n'y a pas de souci. Voilà, donc la conclusion à ce rythme-là, donc la boulette du chef, à ce rythme-là, il faudra probablement plusieurs décennies à l'industrie française et à l'agriculture du cannabis légal pour concurrencer les Américains sur le terrain de la propriété génétique, les brevets et les appellations d'origine contrôlée. Là où l'investissement prépare un futur lucratif et éclairé pour ce secteur, les nations prohibitionnistes comme la France se préparent à un futur différent. En effet, les gains et les investissements sont d'un tout autre nature lorsque la vente du cannabis est opérée par les organisateurs a priori criminels. Pendant ce temps-là, en Gaule, l'éradication du cannabis reste un mythe dispendieux et contre-productif. Il serait temps pour nos politiques de se réveiller avant qu'il ne soit vraiment trop tard.
Ça va nous coûter cher.
Pour le cannabis français, bien sûr.
Ça risque de coûter cher aux contribuables une fois de plus, finalement, hein, c'est toujours pareil.
Rappelez-vous quand même que début du XXe siècle, sur les cartes de France, le chanvre était la culture principale de la France.
Ouais, ouais, il y en avait pas loin d'ici d'ailleurs, dans le Trièvre, dans l'Isère, il y en avait dans les Pays de la Loire, bien sûr.
De partout.
Dans
la Beauce, avant que ça soit un grenier à blé, c'était du chanvre.
Ouais, 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 non, mais c'est une culture populaire qui a été effacée. Il y a une tentative d'effacement de cette culture par nos gouvernants. Et puis, c'est bien, bien voilà. Triste.
Donc, ben voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter.
C'est là-dessus qu'on va se quitter, oui.
Juste rappeler quand même pour ceux qui nous en rattrapent maintenant et qui montent à Paris samedi prochain, 27 mai, départ 14h, place de la République, arrivée 16h à Bastille, une canne parade sur le cannabis pour la légalisation du cannabis ou contre sa prohibition au choix. Donc, c'est à Paris le 27 mai. Allez, ciao à toutes, ciao à tous.
Au revoir.